Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Aligre. On est très très heureux de vous retrouver, Isabelle Raviolo. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie. Bonjour, chers auditeurs. Voilà. Oui, bienvenue. On est très très contente de vous retrouver à l'antenne de Radio Aligre au nom du Collège International de Philosophie.
Bienvenue dans l'émission Philosophie au présent. Aujourd'hui va être consacré, et d'ailleurs dans 15 jours également, hein, puisque nous faisons une bimensuelle, à Alfred Hitchcock. Hein. Voilà, Isabelle va vous parler tout à l'heure de deux films qui la touchent profondément, Fenêtre sur cour et Vertigo. Et moi, je me laisse un petit peu aller en ce début de séance. Et je commence par citer un grand admirateur d'Alfred Hitchcock, qui était François Truffaut. Et là, évidemment, chers auditeurs, si vous n'avez pas cet ouvrage, il faut absolument l'acheter. Allez chez les bouquinistes, et puis même il a été réédité. C'est le Hitchcock-Truffaut qui est la Bible absolue. Et voilà ce que dit Truffaut à la fin de cet ouvrage sur Alfred Hitchcock. André Bazin n'était pas un grand admirateur, inconditionnel d'Hitchcock, mais je lui suis reconnaissant d'avoir à son propos employé le mot clé d'équilibre. Tout le monde connaît la silhouette d'Hitchcock, c'est celle d'un homme qui a toujours vécu dans la peur de perdre son équilibre. À Los Angeles, j'eus la chance de rencontrer avant sa mort un vieux père jésuite, le professeur Hugh Gray, qui fut à la fois le premier traducteur d'André Bazin en Amérique et le condisciple d'Hitchcock au Collège Saint-Ignace de Londres au début du siècle. Il se souvenait très bien du petit écolier Alfred Hitchcock, tout en rondeur, se tenant à l'écart dans la cour de récréation. Adossé contre un mur, il regardait ses petits camarades jouer au ballon avec un air de dédain, les deux mains déjà croisées sur son ventre. Il est bien évident qu'Hitchcock a organisé toute sa vie en sorte que l'idée ne vienne à personne de lui donner une tape dans le dos. David O. Selznick l'avait bien compris lorsqu'il écrivait à sa femme en 1938 « J'ai enfin rencontré Hitchcock, l'homme est plutôt sympathique, mais ce n'est pas le genre de type qu'on emmène au camping ». C'est pourquoi l'image hitchcockienne par excellence est celle de l'homme innocent, qu'on prend pour un autre, qu'on poursuit et qui se retrouve tombant d'un toit, accroché à une gouttière sur le point de craquer. Cet homme que la peur a poussé à raconter les histoires les plus terrifiantes, cet homme qui s'est marié vierge à 25 ans et n'a jamais connu une autre femme que la sienne, oui, seul cet homme a pu représenter le meurtre et l'adultère comme des scandales. Seul il savait le faire et seul il avait le droit de le faire. Ce que disent exactement ces films, Hitchcock ne s'est jamais tellement préoccupé de le savoir, et moins encore de le faire savoir. Mais aucun autre cinéaste ne sut mieux que lui décrire, à travers les réponses aux questions que Helen Scott et moi lui posions, le cheminement qu'il avait suivi pour agencer les histoires qu'il choisissait de se raconter en même temps qu'il nous les racontait. Lorsque le cinéma a été inventé, il a d'abord servi à enregistrer la vie. Il était alors une extension de la photographie. Il est devenu un art lorsqu'il a échappé au documentaire. On a compris qu'il ne s'agissait plus de reproduire la vie, mais de l'intensifier. Les cinéastes du muet ont tout inventé. Et c'est eux, et ceux qui n'étaient pas capables d'inventer, ont dû renoncer. Alfred Hitchcock a souvent déploré le recul qui s'est produit au moment du parlant, lorsqu'on a recruté des metteurs en scène de théâtre qui ne se souciaient pas de visualiser les histoires et se contentaient de les enregistrer sur pellicule. Hitchcock faisait partie d'une autre famille, celle de Chaplin, Stroheim, Lubitsch. Comme eux, il ne s'est pas contenté de pratiquer un art, mais s'est employé à l'approfondir, à en dégager les lois plus strictes que celles qui régissent le roman. Hitchcock n'a pas seulement intensifier la vie, il a intensifié le cinéma. François Truffaut, 1983. Donc c'est voilà le dernier texte qui termine cette Hitchcock Truffaut. Moi j'ai l'édition Ramsay Poche Cinéma. Voilà, alors bon, il faudrait évidemment s'arrêter sur cette relation très connue et qui a été soutenue entre les deux grands réalisateurs que sont Truffaut et Hitchcock, mais c'est pas là l'enjeu. Moi je voudrais simplement communiquer avec vous quelques points de vue hitchcockien et notamment autour de la mise en scène. Alors pour cela, je me sers d'un ouvrage ô combien célèbre et ô combien nécessaire, hein, qui s'appelle « La politique des auteurs », dans lequel voilà, il y a des entretiens avec Jean Renoir, Roberto Rossellini, Fritz Lang, Howard Hawks et notamment Alfred Hitchcock, voilà, et puis Buñuel, Orson Welles, Carl Dreyer, Bresson, Antonioni. Et voilà, les entretiens sont faits par évidemment des grands penseurs et aussi des grands réalisateurs tels que Truffaut, Romer, Maurice Scherrer. André Bazin, Jacques Becker, etc. Donc, je me sers de cet ouvrage un petit peu pour rendre compte de quelques points qui me semblent importants de la pensée artistique, la pensée cinématographique d'Alfred Hitchcock. Dans cet ouvrage, donc, il y a deux entretiens qui ont été faits avec Alfred Hitchcock. Le premier s'appelle « Entretien avec Alfred Hitchcock » par Claude Chabrol et François Truffaut. Donc ça se passe aux alentours des années 72. Et puis un second entretien qui s'appelle « Un nouvel entretien » qui a été fait par Jean Domarchy et Jean Douchet. Dans le nouvel entretien, donc je commence par le dernier, hein, celui qui a été fait par Jean Domarchy et Jean Douchet, il y a quelque chose de très intéressant que dit Alfred Hitchcock à un moment donné quand on lui pose la question. « L'art, dit-il, passe avant la démocratie. » L'art passe avant la démocratie. Alors, Hitchcock exprime cela relativement à deux de ses films et à leur scène finale. Hein. La Statue de la Liberté, dans le film Saboteur, qui a été aussi traduit en français, en tout cas commercialisé en français sous le titre de Cinquième colonne, hein, qui a paru en 1942. Donc, c'est la scène finale de la Statue de la Liberté. Alors, peut-être vous vous en souvenez un petit peu. Hein. Bon, ça se termine en haut de la Statue de la Liberté avec le méchant voilà, qui s'agrippe comme ça, et puis une chute finale. Et North by Northwest, hein, la mort aux trousses, ou comme le traduit littéralement Serge Danet, Nord par Nord-Ouest, hein, la traduction de Serge Danet, qui rend mieux compte de la géographie du film hein, et des lignes, pour Hitchcock, des lignes qui prédominent dans la composition au cinéma, que sont la verticalité et l'horizontalité. Voilà, Serge Danet, il faudrait là aussi développer, grand connaisseur et grand critique aussi cinématographique dans la veine des Bazin et des Truffaut, et qui a écrit beaucoup d'articles sur Hitchcock. Donc Hitchcock dit « L'art passe avant la démocratie » parce qu'on l'interroge autour de ces scènes finales du Saboteur et de North by Northwest ou Nord par Nord-Ouest. À la fin de North by Northwest, je crois que vous vous souvenez tous hein, de la scène au mont Rushmore, hein, le mont Rushmore. Là aussi, une scène célèbre avec Cary Grant et Eva Marie Saint, où finalement tout se termine bien, mais où il y a un suspense haletant. Hitchcock dit finalement que North by Northwest, c'est la volonté d'améliorer le saboteur, hein, donc d'améliorer la scène finale du saboteur dont il n'était pas satisfait. Alors, pas satisfait de ce film Saboteur sorti en 1942, alors que North by Northwest va sortir quelques années plus tard, bien plus tard d'ailleurs. Pas satisfait à cause de quoi ? Les héros ne lui plaisaient pas, les acteurs qui n'étaient pas bons selon lui, et d'énormes fautes sur la scène de la Statue de la Liberté, et cette faute pour lui morale aussi bien que métaphysique si ce n'est esthétique, c'est le méchant qui était en danger et non le héros. C'est donc pour rattraper cette scène finale de la Statue de la Liberté dans Saboteur que Hitchcock refait un film pour essayer d'améliorer cette scène finale et ça passe par Northwest. Aussi, quand Domarchy et Douchet demandent à Hitchcock si le choix de ces grands symboles était relatif à la signification morale qui attache le spectateur américain, hein, bon, on peut se douter, la liberté, et puis les grands hommes qui ont fondé l'État américain, est-ce que c'était donc bon, pour cette espèce d'idéalisation démocratique, hein, pour toucher le spectateur, ou alors est-ce que c'était en tant que décor dramatique ? Alors Hitchcock répond de manière catégorique et sans hésiter, c'était en tant que décor dramatique qu'il a utilisé, et cette scène finale de la Statue de la Liberté dans Le Saboteur et la scène finale sur le Mont Rushmore dans North by Northwest. Et c'est là qu'il précise que l'art passe avant la démocratie, c'est-à-dire avant la politique, que la finalité du film, c'est le film lui-même, et c'est ce qu'il raconte et montre. D'où l'importance, là ça me semble intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui, d'où l'importance du décor dramatique. Je cite Hitchcock dans cet entretien. « Je crois que c'est une obligation dans un film, lorsque vous le faites se dérouler dans un décor bien particulier, de vous en servir d'une façon dramatique. » Alors je rappelle, hein, le drame, hein, ça a pour origine le grec, qui veut dire « action ». et aussi bien que la dimension d'ailleurs tragique, hein, au sens d'une destinée humaine prise dans un engrenage. Donc je reprends la phrase d'Hitchcock. Je crois que c'est une obligation dans un film, lorsque vous le faites se dérouler dans un décor bien particulier, de vous en servir d'une façon dramatique. C'est-à-dire lorsqu'il y a mouvement. Il faut se demander qu'est-ce qui, dans ce décor particulier, va dans le sens de ce mouvement. S'il y a des scènes de mouvement dans un site précis, il ne faudra pas montrer ce site simplement pour faire de la belle photo, il faudra s'en servir d'une façon dramatique. Donc, pour Hitchcock, le décor n'est pas un décor. Il est partie prenante de ce qui se joue et se filme. Il fait le film, donc le décor fait le film, obligeant à l'invention, faisant vivre autrement le personnage acteur, ainsi que le dit Hitchcock. Pour moi, cette opposition entre les personnages et les choses est absolument fondamentale. Elle reflète les problèmes de l'homme ordinaire, pris dans des situations extraordinaires. Le conflit de tout drame. C'est pourquoi l'humour, dit-il, est si important. L'humour, c'est la disparition de ce qui est normal. C'est donc l'anormal. Les spectateurs qui vont au cinéma mènent une vie normale. Ils vont voir des choses extraordinaires, des cauchemars. Pour moi, ce n'est pas une tranche de vie, mais une tranche de gâteau. Donc le cinéma, le film comme une tranche de gâteau, une tranche de vie. Alors voilà, cette présence, cette importance du décor, qui n'est pas seulement un décor, mais qui permet aussi d'inventer, hein, de cadrer autrement et de faire complètement jouer autrement le personnage acteur, nous fait penser aussi à ce décor comme étant, dans la plupart des films d'Hitchcock, comme un coefficient d'adversité, hein, tel que pourrait en parler Sartre. Hein. Le décor dramatique, hein, met en jeu ou fait fonctionner autrement l'acteur-personnage de manière à ce que finalement il reste que cet obstacle n'est pas un obstacle en soi. Hein. C'est finalement notre liberté, hein, qui crée cet obstacle lui-même. Hein. Nous avons cette liberté de créer l'obstacle lui-même, de le concevoir comme un obstacle. Mais il n'est pas en soi, nous dirait Sartre, il n'est pas en soi infranchissable. Le franchissable ou l'infranchissable dépendent de nous. Il y a là quelque chose dans cette conception du décor relativement à l'action, au personnage acteur et au cadrage, quelque chose de très fort qui touche à la liberté même du personnage que l'on voit évoluer dans les films d'Hitchcock. Alors, relativement à cette idée d'anormalité cinématographique, Hitchcock poursuit ainsi. L'essentiel pour que le spectateur puisse apprécier l'anormal à sa pleine valeur est que cet anormal soit montré avec le réalisme le plus complet. Parce que le spectateur sait toujours si quelque chose est vrai ou n'est pas vrai. Si le spectateur se pose des questions au sujet de quelques détails inexacts, il y réfléchit et s'en inquiète. Et moi alors, je ne peux plus faire de suspense. Il faut que dans l'esprit, il ne reste absolument plus rien, sauf le suspense. Donc, voilà, il y a là un premier moment, hein, l'art passe avant la démocratie, hein, l'art est premier, hein, avant tous les symboles politiques. Et puis il y a une deuxième chose aussi que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est cette, et on pourrait l'intituler un peu comme ça, non pas tellement, non plus seulement l'art passe avant la démocratie, mais ce côté, le rapport de la logique et de l'imaginaire. Chez Alfred Hitchcock, qui me semble très intéressant. Alors là, je me sers de l'entretien avec Alfred Hitchcock de Chabrol et Truffaut, hein, toujours dans La politique des auteurs. Je suis à la page 151, 152 pour ceux qui ont l'édition originale. Et il y a quelque chose de très intéressant, et je lis les questions posées par Chabrol Truffaut. Faire commercial est une nécessité pour vous ? C'est seulement par conscience, répond Hitchcock. C'est ma conscience qui m'oblige à faire commercial. Parce que dites donc, un film, c'est beaucoup d'argent. D'argent d'autres personnes qu'on vous prête pour vous exprimer. Et ma conscience me dit, il faut mettre la sourdine pour qu'ils puissent rentrer dans leur argent. Ou bien il n'y aura plus d'industrie et elle mourra de sa belle mort. Voilà ma raison. Et Truffaut et Chabrol de continuer de poser une autre question. Pour Rope, hein, alors Rope, c'est la corde hein, en français. Under Capricorn et I Confess, vous étiez votre producteur. Oui. Était-ce parce que les sujets vous tenaient très à cœur ? Hitchcock répond, oui, ça se pourrait bien. Oui, ça se pourrait bien. Regardez en Angleterre, ils ont fait de nombreux films non commerciaux. Il n'y a plus d'industrie. Ils n'ont plus d'argent pour faire des films. Il faut bien se mettre dans la tête. Après tout, qu'est-ce qu'un cinéma ? Un cinéma, c'est un écran, avec tout un tas de fauteuils qu'il faut remplir. Bien sûr, si le cinéma était différent, si cela se passait dans une pièce, comme un tableau qu'on regarde sur un mur, cela changerait bien des choses. Mais vous devez reconnaître le fait. C'est là justement que réside la difficulté de faire du cinéma. Ce serait infiniment plus agréable si l'on pouvait tourner le film en 16 mm. Et puis, comme pour tous les autres arts, s'il paraît devoir être populaire, de l'agrandir en 35 mm pour l'exploiter. Au départ, cela coûterait une bouchée de pain. Et puis, comme pour un manuscrit qu'on édite et qu'on publie, cela pourrait devenir une grande chose. Mais dans l'état actuel des choses, c'est un peu comme un peintre à qui il en coûterait $1 million pour peindre son tableau et l'encadrer. Donc là, c'est intéressant parce que au départ, c'était un reproche qu'on faisait à Alfred Hitchcock hein, d'être un cinéma commercial. Hein. C'est ce qu'on lui reprochait aux États-Unis. Il faut rappeler que ce n'est pas aux États-Unis qu'Alfred Hitchcock a acquis une stature d'auteur hein, et de cinéaste à part entière. C'est bien à partir de la France et notamment des cahiers du cinéma, en tout cas de toute cette pensée des cahiers du cinéma. Autour de Truffaut notamment, enfin à partir de Truffaut et pas seulement, il faut penser aussi à Eric Rohmer. Alors c'est intéressant parce que là on voit que comment Hitchcock pense le commercial qui est tout de même aussi de faire vivre ce cinéma qui, en tout cas au moment où il parle, en est encore à avoir besoin de producteurs. Bon, d'où la nécessité de rentrer dans les cadres de la production. Hitchcock était connu pour ne jamais dépasser ses budgets, voire même essayer de les abaisser, d'abaisser les coûts des budgets de ses films au plus serré. Alors, il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est cette question de la certitude du cadrage, hein, cette espèce de logique à l'œuvre chez Alfred Hitchcock. Et voici la question que pose Chabrol Truffaut. Jacques Becker a dit un jour, alors Jacques Becker, un grand cinéaste notamment qui a filmé Le Trou, hein, voilà, un grand, grand film du cinéma français. Jacques Becker a dit un jour, Alfred Hitchcock est le metteur en scène au monde qui doit avoir le moins de surprises en projection. Hitchcock répond à cette question. C'est vrai. Je ne vais même pas au rush. On me demande pourquoi n'allez-vous pas au rush ? Je réponds, pourquoi irais-je au rush ? J'ai vu ce qui se passait sur le plateau, dans ma tête, je connais exactement les cadrages, et si quelque chose cloche dans les éclairages ou la photographie, le caméraman me le dira. Mais pour le jeu des acteurs, pour la composition des images, je sais. Aussi n'est-il pas nécessaire d'aller au rush. On me demande pourquoi ne regardez-vous jamais dans le viseur ? Mais enfin, je sais quel objectif est utilisé et son ouverture. Je peux voir la position de la caméra et celle des acteurs. Je dis à Burks, alors Burks c'était son chef opérateur, « Vous coupez à la taille, hein ?» Il me répond « Oui, c'est cela. J'ai tout cela dans ma tête, leur position, leur dimension et tout. Il sait le cadrage que je désire et s'il a la moindre difficulté, je fais un petit dessin. Passez-moi un crayon, je dessine l'écran, vous voyez, et je dis « Voilà le cadrage. Un petit dessin pour chaque cadrage. Voyez, un homme là devant. » Voilà la fille et voilà le type qui surveille d'un peu plus loin. La position des personnages détermine le cadrage. Bon, la première chose que je dessine, quel que soit le cadrage, c'est la première chose qu'on regarde, ce sont les visages. Donc avant tout, position des visages. Vous voyez, je dessine d'abord les visages et après, je détermine le cadrage. Donc il y a là chez Alfred Hitchcock, et c'est ça qui intéressait aussi tous ces penseurs et réalisateurs des cahiers du cinéma, une pensée du cadrage, une espèce de certitude du cadrage, hein, une logique à l'œuvre, mais dont on mépriserait finalement Hitchcock si on n'avait pas en tête que dans ce cadrage, hein, par le découpage aussi, hein, par cet art qu'il avait du dessin, là je vous renvoie au livre Hitchcock-Truffaut où vous avez des planches de dessin de Hitchcock pour mieux vous en apercevoir, on mépriserait d'une certaine manière le travail d'Hitchcock si on n'avait pas en tête aussi cet imaginaire à l'œuvre qui est pour lui finalement le moyen de contrecarrer une trop grande logique qui empêche à tout art d'advenir. Alors je fais référence ici à un petit insert dans cet ouvrage « La politique des auteurs », page 66, dans ce nouvel entretien fait avec Alfred Hitchcock par Jean Domarchy et Jean Douchet, un petit insert qui s'appelle « Rien au monde n'est plus terne que la logique ». Alors voilà ce qu'on demande à Hitchcock. Mais monsieur Hitchcock, vous dites accorder beaucoup d'importance à l'exactitude des détails. Or, vos films apparaissent souvent illogiques. Au début de North by Northwest, on ne croit pas à l'aventure qui arrive à Cary Grant. Que font ses amis pendant ce temps ? Mais, et répond Hitchcock, mais vous oubliez qu'il ne disparaît de la circulation que 2 ou 3 heures. C'est le facteur temps qui joue ici. Il vous est bien arrivé de rentrer en retard le soir, hein ? Eh bien, votre famille ne s'inquiétait pas pour autant. On m'a aussi demandé comment, dans la première scène de Vertigo, Stewart descendait de son toit. Voilà la réponse. Il est descendu par l'échelle du fer du building. Je n'ai pas filmé cette scène parce que ça aurait été très ennuyeux. Domarchy et Douchet poursuivent. Dans North by Northwest et Strangers on the Train, comment les mains du héros peuvent-elles supporter la pression du pied qui les écrase ? Hitchcock répond, je vais vous montrer, mettez-vous là, posez vos mains, moi je vais poser mon pied, mais attention, je pèse 100 kilos. Quand j'ai à résoudre ce genre de questions, je fais appel à une vieille maxime à moi, rien au monde n'est plus terne que la logique. Ma logique est une logique de mormon. Les mormons, vous connaissez ? Lorsque les enfants posent des questions difficiles, on leur répond, va te faire foutre. Il y a quelque chose de plus important que la logique, c'est l'imagination. Et si l'on pense d'abord à la logique, on ne peut plus rien imaginer. Souvent, en travaillant avec mon scénariste, je lui donne une idée. Il répond « Ah, pas possible !» Mais l'idée est bonne, bien que la logique ne soit pas bonne. La logique, on la flanque, par la fenêtre. Et Domarchy et Jean Douchet, de terminer ce petit insert, quelle est alors la logique profonde de vos films ? Faire souffrir le spectateur. Hein, ça nous fait penser à des phrases, notamment de Nietzsche, sur la philosophie. Si la philosophie ne fait pas de mal, elle ne sert à rien. Bon, il y a là un jeu très hitchcockien aussi dans le cinéma. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est quelques points sur lesquels je reviendrai la fois prochaine. On va peut-être, avant de laisser la parole à Isabelle, peut-être passer un premier morceau, Isabelle, que tu as choisi par rapport à tes deux films. Tu voulais passer un premier extrait ?
Oui, alors, un premier extrait que j'ai choisi, de Gershwin, Rhapsody in Blue. C'est un très beau passage que vous connaissez sûrement, chers téléspectateurs, et qui, pour moi, dans sa mélancolie, où il y a une tristesse vague teintée de joie, on dit finalement assez bien cette complexité de l'identité des personnages hitchcockiens. Nous allons y revenir.
Oui, bon, on a un petit extrait, donc, de, tu nous as dit, Isabelle ?
Gershwin.
Oui, hein, Gershwin, pardon. Alors, avant de te laisser la parole sur les deux films sur lesquels tu voulais nous parler aujourd'hui, Fenêtre sur cour et Vertigo, j'ai retenu deux petites phrases introductives à ces films. Dans cet entretien avec Alfred Hitchcock de Chabrol et de Truffaut, et dans un nouvel entretien plus particulièrement avec Jean Domarchy et Jean Douchet, Hitchcock dit « Vertigo, c'est une féerie psychologique, presque de la nécrophilie. Le héros veut faire l'amour avec une morte. » Et deuxième petite phrase absolument magnifique du grand Serge Danet, voilà, mort beaucoup trop tôt de cette infâme maladie qu'est le sida. Et Serge Danet a écrit dans Ciné-Journal, avec une préface de Gilles Deleuze, ça a paru en 86 dans les éditions du Cahier du Cinéma. Il a écrit donc sur Fenêtre sur cour, Serge Danet. Et la première phrase, je lis la première phrase de son article. We have become a race of peeping toms. Nous sommes devenus une race de voyeurs, affirme dès le début de Fenêtre sur cour la prophétique Stella, admirable Thelma Ritter, l'infirmière qui vient chaque jour masser le dos et flanquer de Jeffries. We have become a race of peeping toms. Nous sommes devenus une race de voyeurs. Je te laisse la parole, Isabelle.
Alors oui, Nathalie, merci beaucoup. Tu fais référence à cette phrase dans le scénario, la phrase de Stella, l'infirmière, dans Fenêtre sur cour, rear window, pardonnez-moi pour mon terrible accent anglais.
Pas du tout.
Un film de 1954 et nous avons justement intitulé aujourd'hui notre émission sur Alfred Hitchcock qui se poursuivra ensuite, Les Vertiges du Regard. Alors pourquoi Les Vertiges du Regard? Précisément parce que ce regard est complexe, ce regard est multiple, ce regard est changeant. L'œil d'Hitchcock, tu le disais Nathalie, hein, intensifie le cinéma. S'il intensifie le cinéma, il opère aussi en lui une trouée, une percée. C'est-à-dire au fond que s'il intensifie le cinéma, l'œil hitchcockien parvient à travers ses personnages à découvrir non seulement une complexité, un abîme à lui-même, mais également au fond quelque chose qui serait de l'ordre des troubles de l'identité dont souffriraient les personnages eux-mêmes. Et c'est peut-être ici ce vers quoi je vais vous conduire à travers tout d'abord ce film « Fenêtre sur cour » hein, qui a été très bien accueilli par le public en 1954 et qui met en scène un huis clos à travers trois personnages hein, principaux. Alors Jeffries qui est ce reporter photographe joué par James Stewart qui se retrouve immobilisé dans son appartement après un accident. Hein, il est seul avec son plâtre qui en serre sa jambe et le cloue dans son fauteuil. Et il s'ennuie. Et pour tuer le temps, que fait Jeffries? Eh bien, il épie ses voisins et pénètre chaque jour davantage dans leur intimité avec un immense zoom hein, qui est son matériel de reporter, au fond. Il est entouré par sa petite amie, hein, jouée par Grace Kelly, Lisa Frémont, qui est une mondaine assez sophistiquée, hein, qui arrive toujours dans les plans avec une nouvelle robe, de nouveaux habits, tous plus magnifiques les uns que les autres.
Elle n'était pas encore mariée
au prince Rainier,
c'est pour
Nathalie.
Ça qu'il est allé la chercher quand il voilà. A vu ses belles robes.
Peut-être, je n'en sais rien. Et puis Stella, Thelma Ritter, la magnifique actrice dont tu parlais, oui, effectivement, cette infirmière, l'infirmière de la compagnie d'assurance de Jeffries d'ailleurs, qui commence par lui dire « Non mais dites donc, c'est pas bien ce que vous faites, on vous a jamais appris, dit-elle à Jeffries, qu'il fallait pas regarder comme ça chez les autres. » Et il lui répond aussitôt « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est plus fort que moi. » Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que nous-mêmes, nous sommes, en quelque sorte, pris dans cette pulsion scopique, c'est-à-dire cette tentation du voyeurisme, puisque ces personnages qui entourent Jeff, hein, on va l'appeler Jeff puisque Tel est ainsi nommé, oui. Jeffries par Lisa et puis Thelma, elles se laissent prendre elles, également par cette pulsion et elles vont même entrer, en tout cas pour Lisa Frémont, dans l'appartement du soi-disant meurtrier Lars Thorwald, et on sent bien qu'il y a comme ici une pénétration dans le tableau, qui est regardé, l'objet du regard devient un tableau dans lequel on entre. Donc au fond, l'œil ici du personnage, qui est au fond celui de l'auteur, le réalisateur Hitchcock, est redoublé par l'œil du spectateur. On est pris par l'imagination de cet œil, hein, c'est bien ici ce que je voudrais défendre à travers l'image du vertige, l'idée du vertige, c'est-à-dire qu'au fond, il y a davantage un œil imaginatif qu'un œil logique ici. Et un œil imaginatif parce que c'est un œil qui ne cesse d'interpréter le réel. Est-ce que Thorwald a vraiment tué sa femme? Est-ce que la femme du rez-de-chaussée va vraiment s'empoisonner parce qu'elle est seule et qu'elle s'invente des personnages? Est-ce que ce couple-là a fait l'amour le soir? Est-ce que l'autre est en mal d'inspiration et la danseuse est-elle amoureuse de l'un des invités? On n'arrête pas d'interpréter. C'est comme une mise en abîme de l'existence, ce film. Hein. C'est une fenêtre sur cour qui donne, au fond, sur la vie même, et qui est d'ailleurs adaptée d'une nouvelle de Wells. C'est intéressant. Wells, qui est l'auteur de La Guerre des Mondes, vous le savez, de L'Homme Invisible, de La Machine à remonter le temps, a écrit une très belle nouvelle que je vous recommande de lire, hein, Through the Window, par la fenêtre. Et le héros de cette nouvelle est aussi immobilisé. Et c'est un certain Bailey, B-A-I-L-E-Y, qui se trouve devant un port fluvial et non plus devant une cour d'immeuble. Il a changé le décor. En fait, tu le disais, le décor, c'est important parce qu'il induit, au fond, des circonstances, un comportement, une attitude du personnage.
Et un huis clos.
Et un huis clos.
Un enfer qui se met en place.
Hein. Un enfer qui se met en place, comme dans Lifeboat en 1944, comme dans La Corde en 1948. Hein. On peut se demander pourquoi, finalement, ce film est-il l'un des plus cinématographiques qu'Alfred Hitchcock ait réalisé avec, un petit peu après, Vertigo. Eh bien, peut-être parce qu'il y a un côté assez claustrophobique dans ce huis clos, dans lequel nous, on est pris. Hein. Il y a quelque chose qui, à chaque fois qu'on regarde ce film, nous prend aux tripes. Et d'ailleurs, qui est accentué par la musique, hein, dans les deux films, c'est-à-dire dans Fenêtre sur cour et dans Vertigo. Une chanson aussi qu'on voit naître dans l'immeuble en face, par celui qui est l'artiste, hein, le double d'Hitchcock, et dans l'appartement duquel d'ailleurs Hitchcock apparaît, et ces accords de piano qu'il cherche, qui se révèlent à la fin, parlent d'un personnage dont le nom est Lisa, la petite amie de Jeff. Donc, finalement, chacun peut se voir comme un double dans l'objet de son regard. Et ce double, hein, au fond, n'est pas autre que le réel, c'est peut-être le réel. Alors, du regard logique au regard imaginatif, où est la vérité? Eh bien, peut-être qu'il n'y a pas de vérité absolue, et que précisément, par suite, on pourrait dire que le réel en soi n'existe pas, car il est pauvre, il est nu, il est banal, mais que c'est nous qui l'habillons. En tant qu'il se phénoménalise, qu'il apparaît, qu'il se manifeste, le réel est toujours le réel pour nous. Donc le réel de notre imagination. Et ce qui est intéressant, c'est que cette musique, ou ces musiques, hein, qu'on entend dans le film, se mêlent au bruit de la rue, donc au décor. On entend des camions, on entend des voitures, on entend également des voix, un chien qui aboie. Donc, on est complètement in medias res dans ce film. La cour, la vie des gens de l'immeuble, on est immergé dans l'ordinaire de leur existence. Toutes les fenêtres sont grandes ouvertes. Les gens vivent dehors, hein, c'est probablement l'été, ce qui fait très chaud. Et au beau milieu de l'ordinaire, quelque chose va se produire, un crime. C'est l'extraordinaire qui vient trouer la trame de l'ordinaire ou du banal. Donc, le décor, hein, Nathalie l'a dit tout à l'heure, hein, chers téléspectateurs, c'est ce décor qui fait le film, qui fait vivre autrement le personnage acteur, avec ses successions de plans, sans recours au dialogue. D'ailleurs, 35% du film ne contiennent pas de dialogue. On est dans le regard, justement. Et d'ailleurs, c'est ça que souligne Truffaut en disant la grandeur d'Hitchcock, c'est de laisser des temps au silence. Alors, au fond, dans ses entretiens avec Truffaut que tu rappelais, Nathalie, Hitchcock souligne que dans ses films, la norme à laquelle il s'astreint, qui représente la valeur suprême, c'est pas la vraisemblance, c'est davantage la cohérence. Et l'objectif d'Hitchcock, c'est pas de faire vrai, mais c'est de créer une unité cohérente. Et on la crée, cette unité cohérente, chers téléspectateurs, que lorsqu'on excède les prétentions du regard rationnel, objectif, logique. Donc, quand finalement on excède une soi-disant logique préétablie, mais qu'on privilégie une cohésion narrative en intégrant l'imagination. Pourquoi l'imagination est-elle celle qui met son prix aux choses, disait déjà Pascal dans ses pensées, et que la raison a beau crier, elle n'aura jamais le dernier mot. Mais précisément parce que le réel, sans notre regard interprétatif, donc subjectif, donc aussi un regard qui imagine, n'est rien, ne vaut rien. et nu, dénudé, pauvre, autrement dit, tout plan a un sens dans son lien avec les autres et rien ne doit être gratuit et le moindre réglage technique doit être justifié, parce qu'il y a une logique interne à l'imagination, c'est pas du chaos. L'imagination, si elle est la folle du logis chez Pascal, elle est aussi créatrice, elle est aussi chez Pascal celle qui nous mène à Dieu. Hein, c'est pas quelque chose qui va nous faire nécessairement dériver, c'est un risque qu'elle comporte, mais c'est le risque de la grandeur, au fond. Et c'est tout à fait, au fond, ce qu'interroge Hitchcock dans ces deux films. Il interroge la perception. Qu'est-ce que c'est que percevoir ? Est-ce que c'est connaître, objectivement ? Ou est-ce que c'est reconnaître un réel qui ne se dit qu'à travers l'identité et la différence de soi-même à l'autre ? Alors, qu'est-ce qui est différent de moi à l'autre dans Fenêtre sur cour ? En quoi cette différence me reconduit-elle à mon identité ? Eh bien, les enjeux métaphysiques du film rejoignent ces enjeux esthétiques, puisque la réalité que nous recouvrons, on peut se demander si ce n'est pas une illusion, si percevoir de le réel par l'œil et l'ouïe n'est pas finalement une manière de toujours lui faire dire ce qu'il ne dit pas d'emblée. Et lui faire dire ce qu'il ne dit pas d'emblée, c'est chaque moment dans l'appareil cinématographique hitchcockien où le panoramique sur la cour amène dans le champ le passage qui laisse percevoir la rue perpendiculaire, justement, la trouée du tableau, l'ouverture même, le récit qui ouvre les bruits de la rue et les augmente, les klaxons, les sirènes, les enfants, les voitures, la cohérence qui obéit au souci hitchcockien de créer un monde, donc de l'imaginer. Au fond, le regard dans le sens de son omniprésence, c'est la vie des personnages vus et non vus, par l'œil, le téléobjectif, par les jumelles. Donc ce qui est vraiment vu, c'est ce qui est imaginé hors scène, c'est dans le off en fait, hein. Et la vue par Jeff, par nous et par Lisa, c'est autant de regards sur le réel. Donc le réel ne se laisse jamais appréhender par un seul regard, à la lunette un regard qui serait unilatéral, enfermant et restrictif, mais toujours par la multiplicité des regards. C'est ça qui fait un chef-d'œuvre cinématographique et pictural au fond. C'est que, quelle que soit l'époque, quel que soit le spectateur, le regardant, c'est pas seulement une pulsion scopique à laquelle il va céder, mais c'est aussi une force imaginative, imaginatrice. Et c'est l'imaginaire sartrien qui réinvente les mondes et qui augmente en quelque sorte la capacité à dire toujours plus parce que, au fond, l'œuvre d'art n'est chef-d'œuvre que dans la mesure où elle laisse l'infini à l'interprétation. Au fond, si les plans sont reliés dans ce film par des raccords regards à Jeff, c'est que par son regard, on imagine toujours ce qui est possiblement dans l'avenir, donc ce qui va arriver. C'est à l'interprétation des détails que la vérité se fait, au fond, ici. Et on observe Jeff, et on devine par les expressions de son visage ce qui s'est passé. Alors on voit bien que, finalement, ce film, Fenêtre sur cour, modélise peu ou prou la situation du public au cinéma. C'est le rôle du miroir, c'est le rôle de l'optique qui est ici en jeu. Et pour la première question qu'on a posée avec Nathalie, l'immobilité du héros, hein, Jeff, joué par James Stewart, je me répète, c'est une immobilité mobile. Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui est mobile ? C'est pas son corps, il est figé, c'est son œil. Donc au fond, Jeff, c'est le spectateur, acteur. Jeff est plâtré, il peut pas bouger, mais cette situation qui réduit son corps à l'immobilité lui permet d'augmenter la mobilité de l'œil. Donc au fond, à travers cet œil, se crée un microcosme qu'il ancre dans le macrocosme par le bruit du dehors, c'est-à-dire de la rue, hein. Et donc le rapport entre ce qui est dans la cour et ce qui est hors cour, ce qui est fenêtre sur cour et fenêtre hors cour, c'est la fenêtre de l'œil. Donc ce monde entreaperçu mais non vu est omniprésent au fond ici. Et il est donné en chair et en os pour parler comme une cerle, non visuellement mais perceptivement. Or ainsi, on peut dire que le propre de ces sons acousmatiques est de faire advenir un nouveau type de hors-champ. Et c'est bien là ce qui est donné à l'ouïe, sans être donné à l'œil. Alors peut-être que l'œil lui-même est excédé dans l'ouïe, c'est-à-dire dans une attention redoublée qui est celle de zoomer, dézoomer, au fond. Il est même plus que jamais attentif, Hitchcock.
à ses moindres détails de déplacement, à leurs expressions qu'il parvient à capturer avec son instrument, justement, c'est-à-dire la caméra. Et il observe, il détaille avec une grande attention ces soubresauts, cet environnement qui bouge au millimètre. Hein. Et c'est cette précision hitchcockienne qui se retrouve dans le téléobjectif de Jeff, au fond. Et aussi dans notre attention au film. On n'en rate pas une miette. On regarde les détails. On se dit, tiens, ça tient peut-être au déplacement des dalles de la cour où il aurait peut-être enterré sa femme. Pourquoi le chien est mort? Pourquoi l'a-t-on empoisonné? Donc, on est ici comme un œil-esprit. C'est l'esprit qui connaît la cire, disait déjà Descartes dans ses méditations métaphysiques, hein, donc qui sait ce qu'est la cire. Ben nous, c'est l'esprit par l'œil qui perçoit, donc qui connaît l'interprétation juste, sans pouvoir nécessairement passer par une démonstration logique, mais en étant dans un accord, dans un raccord, dans une adéquation. Au fond, il y a quelque chose ici, dans la perception de loin et de près, Nathalie, qui pose une force centrifuge et une force centripète. De loin, il y a une force centrifuge qui s'opère, le téléobjectif de Jeff équivaut au télescope de Galilée, hein, au fond. Et puis, il y a également une force centripète à l'inverse, où le film devient l'illustration d'une grande machine théorique et idéologique. Donc, on voit bien que ce film, Fenêtre sur cour, dit le réel construit. Imaginez ce qu'on croit savoir à partir de ce qu'on a vu. D'ailleurs, quand il invite son copain policier à dire « Non mais attends, Thorwald est vraiment le meurtrier de sa femme, je te le dis. » L'autre, il dit « Attends, t'as pas de preuves, tu délires, attention. Et puis en plus, moi, j'ai pas de perquisition, je peux pas rentrer chez lui. Et en plus, toi, t'as regardé, t'as maté à travers un objectif, ça se fait pas. Comment justifier ? » Et peu à peu, il convainc lui aussi policier d'aller perquisitionner chez cet homme. Donc, au fond, la perception, si elle est toujours lacunaire, chers téléspectateurs, c'est bien peut-être que l'objet imaginé, comme le dit Sartre, se donne au sujet par sa complétude. Et on en perçoit toujours tous les détails, mais par étapes. Donc, au fond, jamais en même temps on aura tous les profils de l'objet, mais en même temps cette relation que l'on peut avoir à ce qui est vu est toujours une relation qui pose celui qui regarde comme un interprète du réel. Et de ces formes de vie, on n'aperçoit finalement ici que des extraits à nous décrire la suite, à nous décrire cette dimension qui reste, ce réel, cette lacune de la perception qui suscite les énigmes. Et tout le progrès du film, il est là, dans l'ajout de perception qui permet de combler les trous. Donc, on peut vraiment voir dans ce film la présence des vertiges que l'on retrouve déjà dans un très beau livre que j'ai relu récemment, Nathalie, que je vous livre à la lecture également, chers auditeurs. C'est le livre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, un livre magnifique, où là, on voit bien que regarder dans le détail nous conduit souvent à voir l'horreur, selon les mots de Joseph Conrad dans ce film. Donc quand on voit sans voir, quand on zappe, on oublie et on ne fait plus mémoire, on n'analyse plus. Et quand on regarde de trop près avec un téléobjectif comme Jeff, on finit par percevoir des choses qu'on n'aurait pas dû voir. Quelqu'un qui a tué sa femme. Donc, c'est vrai qu'on cède ici au voyeurisme, mais je ne dirais pas qu'on puisse lire ce film qu'à la lunette de cette interprétation de voyeurisme ou de pulsion scopique. Si la question, c'est bien de savoir si Thorwald a tué sa femme, l'enjeu ici, c'est davantage un enjeu qui touche le rapport entre l'imagination et le réel. Et je dirais que l'imagination ici, elle a vraiment une portée pascalienne, chers auditeurs. Elle a une portée pascalienne parce que c'est vraiment une faculté de disproportion. Mais c'est que peut-être dans la disproportion, on trouve l'adéquation au réel. Alors, on va passer la plage musicale numéro 2 que j'ai choisie, et c'est Ray Charles.
got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me.
Oui, alors chère Isabelle, c'était je lis un passage à toujours tiré de Serge Danet pour rebondir ce que tu as dit. Serge Danet qui écrit donc sur Fenêtre sur cour dans son livre Ciné Journal que je vous recommande. Et pour faire écho à ce que tu disais, voilà ce qu'il écrit. Étrangement, c'est ce qui frappe le plus aujourd'hui. Parce qu'il est un visuel, Hitchcock reste fondamentalement un cinéaste du muet. C'est-à-dire qu'il considère tous les sons comme également artificiels. À Truffaut, il ne craint pas de confier. Le dialogue est un bruit parmi d'autres, un bruit qui sort de la bouche des personnages, dont les actions et les regards racontent une histoire visuelle. C'est ce qui lui a permis, dans le cadre du cinéma hollywoodien des années 50, d'être à sa manière un contemporain des Tati ou des Bresson qui, en Europe, se posaient à leur manière les mêmes questions. Le cours sur lequel donne la fenêtre est avant tout un bain sonore, t'en as très bien parlé Isabelle, saturé, urbain, plein de rumeurs et de promiscuité, d'air chaud et de réverbération inavouable. Et dans ce magma sonore, il y a une petite chanson qui ferait son chemin et dont finalement tout dépend. Écoutez, fenêtre sur cour. Très beau. Je te laisse.
Oui,
la parole.
Vraiment très très beau ce que Serge Danet, critique de cinéma, mort en 1992, je crois, à Paris.
Quelle grande perte.
Oui,
quelle
grande, grande perte. Ouais. Dit. Alors, c'est vrai que c'est un film que je vous recommande de revoir, hein, Fenêtre sur cour. Et d'ailleurs, vous le savez, le Collège international de philosophie a un partenariat avec le Méliès à Montreuil. Et il passe au Méliès jeudi prochain à 20h30. Et c'est après la séance que je creuserai davantage ce lien entre Pascal et Hitchcock, un lien que voilà, sur lequel je suis en train de travailler, où j'étudie à travers ces vertiges du regard la mise en abîme du soi et montre qu'en réalité, pour atteindre l'ipséité, le soi même, il faut peut-être excéder le moi, c'est-à-dire que pour atteindre le fond de l'image, il faut excéder l'apparence.
Alors, tu nous rappelles la date de ton intervention ?
Oui. Alors, c'est à Montreuil, à Mairie de Montreuil, au Grand Cinéma Le Méliès, et nous passerons une séance avec le film, une fenêtre sur cour.
C'est quel jour exactement?
Et c'est jeudi prochain,
c'est
en
jeudi
fait,
prochain,
chers
voilà.
Les auditeurs. C'est jeudi prochain. Nous vous attendons tous très nombreux avec vos amis au Méliès à Montreuil, au nom du Collège international de philosophie, pour travailler plus en détail ce lien entre Hitchcock et Pascal, et pour poursuivre notre lecture sur la dialectique entre logique et imagination. Un œil qui interprète, un œil qui, dans son interprétation, peut-être ne travestit pas le réel, mais le rend comme il est. Alors, les annonces que Nathalie vous a faites tout à l'heure concernent Vertigo, hein, puisqu'elle vous a dit que j'allais vous présenter également ce film. Bien sûr, c'est une promesse. Hein, je n'ai pas le temps aujourd'hui dans l'émission de vous en parler plus en détail.
On y reviendra
mais,
dans 15 jours.
Je vais vous présenter ce film très en détail. Je vous laisse simplement avec ces quelques vers de Gérard de Nerval pour le méditer ce week-end. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Merci, merci, chers auditeurs.
À très bientôt. Merci. Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.